n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez ce matin d'un livre que vous avez particulièrement aimé.
Et oui, un livre que j'ai même adoré. Alors déjà parce qu'il paraît dans l'excellente et jolie édition d'Anna Moza, et ensuite parce qu'il pose une question passionnante. Comment pense un savant? Cette question, c'est Jean-François Bert qui la pose à partir du cas d'un scientifique peu connu mais tout à fait original, Georges-Louis Le Sage. Alors Georges-Louis Le Sage, pour vous faire une petite présentation, est un physicien et mathématicien de Genève, né en 1724 et mort en 1803. Son idée, qu'il pensait révolutionnaire mais qui a été surtout vue comme une mauvaise application des principes de Newton, conserver la gravité et plus précisément les corpuscules ultramondains, de petits éléments de matière censés mettre en mouvement les corps célestes par un effet de compression. Mais si Jean-François Bert s'est penché sur le cas Le Sage pour se demander comment pense un savant, c'est moins pour le fond de sa théorie que pour sa méthode très originale. Pour consigner ses découvertes, ses expérimentations et ses hypothèses, Le Sage n'avait en effet pas recours à des feuilles ou à des carnets, mais à des cartes à jouer. Ce qui peut paraître fou aujourd'hui, mais qui était en fait courant à l'époque, c'est d'ailleurs ce que faisait aussi l'un de ses contemporains, Jean-Jacques Rousseau.
Pour bien remplir le titre de ce recueil, je l'aurais dû commencer il y a 60 ans. Car ma vie entière n'a guère été qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour. Je le commence aujourd'hui, quoique tard, parce qu'il ne me reste plus rien de mieux à faire en ce monde. Je sens déjà mon imagination se glacer, toutes mes facultés s'affaiblir. Je m'attends à voir mes rêveries devenir plus froides de jour en jour, jusqu'à ce que l'ennui de les écrire m'en ôte le courage.
Au milieu du XVIIIe siècle, les savants écrivent sur des bandelettes, des feuilles volantes, des fiches ou encore sur le verso des cartes à jouer, nous explique Jean-François Bert. C'est une pratique qui complète, puis finit par remplacer l'écriture sur un carnet ou sur un registre. Avec la carte, puis la fiche, il devient possible, bien plus facilement qu'auparavant, d'accumuler, d'organiser, de classer, de transférer, de partager des informations nécessaires à tout travail de recherche. Deux savants genevois ont fait l'expérience de ce geste singulier. Jean-Jacques Rousseau, qui a donc rédigé ses rêveries du promeneur solitaire sur le dos de plusieurs cartes à jouer, se servant de celles-ci comme une sorte de bloc-notes qu'il pouvait emporter partout et qui lui permettait surtout de réduire le temps entre l'idée et l'écriture de l'idée sur le papier. Et il y a donc aussi Georges-Louis Le Sage, qui a fait des cartes à jouer une véritable méthode d'enregistrement, de classement et de partage du savoir. 35 000 cartes à jouer au total composent les archives de Le Sage. Notes, citations, réflexions ou témoignages de ses découvertes. Ce fond est massif, dense et vertigineux, car chaque carte se complète, se prolonge ou se métacommente, posant ainsi à nouveau frais la question de la méthode scientifique. Comment pense un savant? C'est-à-dire comment un savant peut-il enregistrer ses recherches? Et inversement, comment cet enregistrement bouleverse ses recherches?
J'aurais pu employer le mot histoire. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et sans doute, j'aurais évité certaines confusions. Mais je crois que je serais tombé moi-même, par la force même du mot « histoire », dans d'autres confusions. En effet, quand on parle en général de l'histoire du savoir ou de l'histoire des connaissances, on essaie de faire l'histoire de ce que les hommes ont pensé, de ce que les hommes ont découvert, de ce qu'ils ont su ou de ce qu'ils ont cru. Alors, ce n'est pas cette histoire-là que je veux faire, ni l'une ni l'autre. Ce que je veux faire, c'est la description, en quelque sorte, des formes de discours et des fonctionnements du discours dans une civilisation. Et ces formes de discours, ce fonctionnement des discours, est à la fois différent des pensées, de ce que les hommes ont pensé, et différent aussi des pratiques sociales, économiques, politiques, qui peuvent caractériser une civilisation.
Quand Foucault questionne la manière dont s'est fondé le savoir, au terme d'histoire, il préfère celui d'archéologie. Il ne pose pas une autre question que celle-ci. Comment le savoir n'est-il pas seulement tributaire de son fond, mais aussi de sa forme, de sa construction, de sa manière d'être posé, d'être structuré, d'être mis en œuvre? Et Georges-Louis Le Sage incarne incroyablement cette question avec ses cartes à jouer, car celles-ci sont une attestation de ses recherches, mais elles ont profondément aussi réorienté celles-ci, au point de devenir leur centre, sa véritable recherche finalement. Qu'est-ce qu'un bon livre de physique? Doit-il être relié, par exemple? Comment faire usage de la ponctuation et de l'orthographe? Comment prouver que l'on est l'auteur de ce que l'on écrit? Parce que tout devait être consigné, corrigé ou validé, repris ou amendé. Tout devait être classé, empaqueté et étiqueté. Le sage n'a peut-être pas révolutionné la science, mais il a au moins un peu modifié notre rapport au savoir.
J'en conclus que le sage portait bien son nom.
Bah, pas mal, pas mal. Et ce livre est très joli, il faut
donc,
le dire.
Comment les pense éditions... à savant?
Comment pense à savant de Jean-François Baer, un physicien des Lumières et ses cartes à jouer, et c'est aux éditions Anna Moza.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.